pardon, bonjour.
Bonjour, les maladies rares dépendent du remboursement obligatoire. C'est en tous les cas ce que pensent 83% des personnes interrogées par le moniteur de la santé GFS, l'institut de sondage. Et selon les sondés, la décision de prise en charge doit s'effectuer en priorité sur des considérations médicales et non pas sur des coûts. Quant à la caisse unique, elle ne fait pas l'unanimité, explication de Pierre Yeni à Berne. On parlera santé également à Genève où un nouveau centre du sein a été inauguré ce matin. Genève est le canton qui détient un taux record de cancer du sein mais aussi un taux record de rémission. Meilleure prise en charge, qualité des soins, accueil des femmes mais aussi recherche clinique figurent parmi les objectifs à poursuivre dans ce lieu. Nous recevons la responsable de ce tout nouveau centre, la professeure Monica Castiglione-Gertsch. Dans ce journal, nous évoquerons aussi le Forum du bilinguisme qui coédite à Bienne le premier livre pour enfants bilingues. La directrice de ce forum, Virginie Borel, sera notre invitée. Les entreprises doivent-elles repenser leur façon de travailler face à l'augmentation des travailleurs nomades? Aujourd'hui, 1 milliard de travailleurs dans le monde sont considérés comme tels. Bienvenue à Nomadsland sera le thème demain des 4e rendez-vous des entrepreneurs romands à Genève. Bruno Savoya, directeur du cabinet IBT, spécialisé dans l'amélioration de l'efficacité au travail, sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Pluie, nuages, quelques éclaircies ces deux prochains jours. Il fera 25 degrés cet après-midi. Les thermomètres descendront à 20 degrés dès demain. Cette perturbation restera sur la Suisse romande jusqu'à samedi. Retour du beau et du chaud, c'est pour dimanche. Météo d'Éric Faucher dans une demi-heure. Les Suisses se portent bien, voire très bien, c'est ce qui ressort du Moniteur de la Santé 2011 réalisé par l'Institut de sondage GFS et présenté ce matin à Berne. Des Suisses qui se déclarent favorables au remboursement des maladies rares, maladies pourtant coûteuses, mais qui s'opposent à l'idée d'une caisse maladie unique, Pierre Yeni.
Oui, si depuis la votation de 2007 sur une caisse unique, une majorité de sondés connaît ce dossier, ils sont 51% à préférer le système actuel. Mais l'idée de caisse unique gagne du terrain en Suisse romande, notamment dans les campagnes. Pourtant, il n'y a pas de quoi réjouir les actuels promoteurs de l'initiative populaire pour une caisse maladie unique, selon Claude Longchamp, responsable de GFS Berne.
La discussion critique pendant une campagne électorale n'a pas eu lieu actuellement. Alors, et puis là, normalement, les initiatives perdent pendant cette discussion. Ce que nous voyons actuellement, il reste la discussion sur la concurrence entre les assurances de maladie. Si cette concurrence a des effets positifs pour les personnes assurées, alors là, le système actuel est accepté. Si les effets seraient que négatifs, plus cher, plus compliqué, etc., cette acceptation serait négative. Et puis là, ça c'est le moment où cette initiative pour une caisse maladie unique toucherait la majorité.
Et les personnes interrogées se montrent méfiantes, voire très méfiantes envers l'État si celui-ci devenait assureur. On retrouve Claude Longchamp.
Il y a une certaine déception, méfiance vis-à-vis de l'État. C'est pour ça qu'on espère que peut-être avec la concurrence sur le marché aurait des effets positifs en ce qui concerne les coûts de la santé.
Le sondage montre encore que près de 2 citoyens sur 3 souhaitent que l'assurance de base prenne en charge l'ensemble des prestations. Enfin, ils sont 86% à vouloir conserver la liberté de choisir eux-mêmes leur médecin.
Il était aussi question de santé du côté de Genève. Ce matin, les HUG ont inauguré un nouveau centre du sein. Objectif pour les patientes, bénéficier d'un encadrement soutenu au cœur de la maternité. En 2010, les hôpitaux universitaires de Genève ont accueilli la moitié des 500 cas de cancer du sein détectés dans tout le canton. La professeure Monica Castiglione-Gertsch est la responsable de ce tout nouveau centre. Nous lui avons tout d'abord demandé en quoi cet endroit va concrètement améliorer le traitement du cancer du sein en Suisse. Voici sa réponse.
Ce qui est nouveau dans un centre du sein, c'est l'unité des lieux. Premièrement, il y aura 2 étages dans la maternité qui seront dédiés au centre du sein. Et il y aura un parcours pour la patiente qui sera un parcours qui est vraiment construit autour de ses besoins. C'est-à-dire qu'on a la patiente qui doit avoir la radiologie plutôt que la chirurgie, plutôt que le contrôle, la chimiothérapie. Vraiment, le centre du sein est construit autour des besoins de la patiente. Ça, c'est sûrement une des choses. Et le deuxième plus d'un centre du sein, si on le compare à la prise en charge pluridisciplinaire qui est déjà là, c'est sûrement la coordination. Il y a quelques 20 personnes qui se penchent sur une patiente qui a un cancer du sein. Et on peut bien s'imaginer qu'il faut coordonner les actions de toutes ces personnes, le chirurgien plutôt que le radiologue, l'oncologue, les rendez-vous pour la radiologie. Il y aura vraiment la coordination autour de la patiente.
Pour la patiente, ce qui va vraiment changer, c'est que vous diriez qu'elle sera beaucoup mieux entourée, la prise en charge sera beaucoup améliorée.
J'espère que ce soit comme ça et ça devrait être le but d'un centre du sein.
Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés pour ce centre? Par exemple, plus de taux de rémission, une baisse de la mortalité. Est-ce que vous avez déjà chiffré ces objectifs?
C'est difficile clairement de chiffrer. Ce que moi j'aimerais pas chiffrer mais avoir, c'est une augmentation de la qualité de la prise en charge. C'est-à-dire une satisfaction majeure de la part de nos patientes. C'est clair qu'on aimerait augmenter le numéro de patientes qui sont traitées au UGG, ça c'est normal. Mais je pense que la qualité de la prise en charge est sûrement un des buts primaires. Et peut-être vous avez lu les articles qui sont sortis dans les derniers temps qui montrent que dans des pays où il y a les centres du sein, il y a la mortalité pour le cancer du sein qui diminue probablement plus rapidement que dans les pays où il n'y a pas de centre du sein.
Vous avez dit avant améliorer la qualité justement de la prise en charge. Ça veut dire qu'en Suisse, vous trouvez qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisante?
Oui, elle peut être améliorée et il y a quand même des données qui montrent qu'en Suisse, il y a des différences terribles entre une région plutôt que l'autre. Et ce qu'on peut dire quand même avec beaucoup de plaisir, c'est le fait que Genève est toujours sortie magnifiquement de toutes ces enquêtes et de tous ces travaux aussi scientifiques qui ont été faits dans les dernières 2-3 années. C'est-à-dire que le taux de survie à Genève a toujours été démontré comme étant le plus haut de Suisse.
Monica Castiglioni-Gertsch, la responsable du Centre du Sein aux hôpitaux universitaires de Genève, inaugurée ce matin. Et puis la santé, récompensée cette fois en Valais avec une première Suisse. Les communes d'Anniviers et de Ninda ont obtenu aujourd'hui le premier label suisse de valorisation des mesures développées dans ces communes en faveur justement de la promotion de la santé de leur population. Un label proposé par Promotion Santé Valais. De quoi s'agit-il exactement? Question posée par Yves Terrani à Gilles Crétenant, coordinateur auprès de Promotion Santé Valais.
Alors, ce label, c'est en fait valoriser tout le travail qui est effectué par les communes autour de la promotion de la santé, de la population dans les communes s'occupent et que les communes connaissent très bien d'ailleurs.
Parce qu'il y a un problème dans ce registre, la population n'est plus suffisamment en santé?
La population, elle change son mode de vie, elle est un petit peu plus sédentaire, on le sait, on bouge un peu moins. Et donc, c'est vrai qu'il faut maintenant aux autorités aussi essayer de les inciter, de les motiver, de motiver la population, les familles, les jeunes, les enfants en particulier, à bouger plus, à prendre plaisir à sortir, oui.
Alors, il y a un certain nombre de règles à remplir pour obtenir ce label.
Oui, il faut évidemment que les mesures soient validées par Promotion Santé Valais, qui gère ce label. Et donc, ces mesures, elles doivent correspondre à l'esprit, à la philosophie de la promotion de la santé au sens large.
C'est de l'hygiénisme que vous faites là?
Exactement le contraire. Une ligne pédibus avec des enfants qui courent partout et en toute sécurité avec un adulte qui les suit. Une semaine, la Suisse bouge, où on a des aînés, des enfants, des familles, des clubs qui se réunissent pour faire un défi intercommunal. C'est vraiment tout sauf de l'hygiénisme, c'est du plaisir.
Notons encore que la Promotion Santé Valais mettra ce label et son concept à disposition des cantons qui souhaitent l'introduire. La nouvelle législation sur la poste devrait entrer en vigueur au milieu de l'année prochaine. Du coup, le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter l'initiative pour une poste forte, défendue par la gauche et par les syndicats. Un texte devenu sans objet, les principaux buts de l'initiative étant réalisés grâce à la nouvelle loi, notamment la garantie du service universel. Et surtout, plusieurs revendications de l'initiative ne sont pas du goût du Conseil fédéral. Christelle Domingeau.
Oui, il y a d'abord cette exigence que la poste ne puisse exploiter son réseau qu'avec son propre personnel. Ce qui, de facto, empêcherait les agences postales, présentées comme une solution flexible et conviviale par le Conseil fédéral, pour assurer l'offre de base dans certaines régions. Le gouvernement ne veut rien savoir non plus d'une banque postale appartenant à 100% à l'ancienne régie. Les initiants souhaitent élargir les activités de Poste Finance et l'autoriser à proposer des crédits et des hypothèques en son nom propre. Une idée rejetée à plusieurs reprises par le Parlement et encore une fois aujourd'hui par le Conseil fédéral, qui estime que ce n'est pas un moyen adéquat pour assurer le financement financement du service universel. Mais c'est sans doute ce dernier point qui a fait que l'initiative n'a pas été retirée jusqu'à présent, même si le texte a rempli une grande partie de ses objectifs, notamment faire pression pour éviter la libéralisation totale du marché postal. Les 110 000 signatures déposées fort à propos juste avant les débats au national ont pesé pour empêcher la suppression du dernier monopole de la Poste sur les lettres de moins de 50 grammes.
Christelle Domingeau en direct du Palais fédéral. Le conseil communal de la ville de Fribourg s'est à son tour prononcé favorablement ce matin à l'achat du terrain de Cardinal. Le grand conseil fribourgeois s'est déjà prononcé il y a 2 semaines sur l'achat de ces 53 000 mètres carrés au centre-ville de Fribourg. Ville et canton investissent chacun 12,5 millions de francs. Il ne reste plus que l'aval du conseil général, Muriel Balamand.
Et selon toute attente, le Conseil général va se prononcer favorablement à cet achat. Ce sera lundi prochain. Selon le syndic de Fribourg, les deux commissions du Conseil général consultées pour cet achat, la commission de l'édilité et la commission financière, ont donné leur aval. Et puisque les représentants de ces commissions émanent de plusieurs partis, cela devrait refléter le vote de lundi prochain. L'enjeu est davantage dans le fait de donner un signal politique fort en décrochant l'unanimité au Conseil général, comme ça a été le cas il y a 2 semaines au Grand Conseil.
En revanche, Muriel, les questions sur la suite des opérations restent nombreuses.
Quel type d'affaires va-t-on brasser sur le site Cardinal? Le parc technologique se dessine toujours plus, mais pourquoi ne pas également en faire, en partie du moins, un lieu de vie avec des habitations? Se dirige-t-on, comme le souhaite le Conseil d'État fribourgeois, vers un site zéro carbone pour différencier ce parc technologique? Le groupe de travail a du temps pour y répondre. Car la dernière bière sera brassée à la fin de ce mois sur le site de Cardinal. Les installations techniques devront être démontées. La ville et le canton prendront possession du terrain. Ce sera dans 1 année.
Muriel Balamand en direct de Fribourg. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour abus de pouvoirs sociaux sur 2 subordonnés de Christine Lagarde dans le dossier de l'arbitrage qui a rapporté 285 millions de francs en 2008 à Bernard Tapie. C'est ce qu'indiquent aujourd'hui des sources judiciaires. Cette procédure a été révélée par le site internet français du Monde. Révélation qui intervient alors que la ministre de l'économie française sera auditionnée demain à Washington pour succéder à Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Franco Frattini a réclamé ce matin une suspension immédiate des hostilités en Libye pour permettre la mise en place de couloirs humanitaires pour aider la population. Le ministre italien des Affaires étrangères a par ailleurs exigé des informations détaillées après les erreurs de frappe de l'OTAN qui ont touché des civils. Du côté du Yémen, depuis 4 mois, la capitale Sanaa est touchée elle aussi par un soulèvement populaire. Des centaines de tentes occupées par des manifestants anti-régime sont apparues devant le campus de l'université de la ville, scène identique à Taès, 3e ville du pays. Dans le sud, en revanche, dans le port d'Aden, la contestation se fait de plus en plus discrète. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, les habitants observent une désobéissance civile dans la ville. Tout est fermé à l'exception des restaurants et de rares épiceries. Reportage de Marine Lass.
Une avenue bloquée, moins d'une dizaine de tentes dans le centre-ville, quelques centaines de véhicules à sec à l'approche des stations essence. À Aden, des traces de révolution, mais pas de mobilisation de masse. Si la ville portuaire a été un important foyer de contestation dans les premiers jours de la révolte yéménite, depuis quelques semaines, l'ambiance est au calme, notamment depuis le départ d'Ali Abdullah Saleh pour l'Arabie Saoudite après l'attentat contre son palais le 3 juin dernier. Ariam, habitante d'Aden.
Tout le monde est dans l'attente, tout est arrêté car on n'a pas d'informations. Le président va-t-il mourir? Va-t-il revenir? Personne ne sait rien, personne ne peut prédire l'avenir. Alors les manifestations se sont arrêtées et il faut également prendre en compte la chaleur et le manque d'électricité. Ces 2 éléments compliquent les rassemblements. La vraie révolution se déroule à Sanaa et à Taiz.
Autre élément, les combats entre les forces de sécurité yéménites et des groupes armés dans la province voisine d'Abyan. Depuis début juin, ces affrontements ont entraîné la fuite de près de 95% des habitants de cette région. La moitié ont trouvé refuge à Aden. Bachir Ahmed Khan, responsable du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Aden.
Dans les premiers jours de combat, il y avait 4 à 5 écoles réquisitionnées à Aden pour accueillir les déplacés. Maintenant, il y en a plus de 44. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous avons tous les jours de nouveaux venus.
Pour aider ces déplacés, les habitants d'Aden, tout comme les organisations internationales et nationales, se mobilisent, laissant donc de côté pour un temps la révolution.
À Aden, au Yémen, un reportage signé Marine Lass. Retour en Suisse dans le canton de Berne. Le vote du 13 février sur la taxe véhicule est annulé. Les bulletins devront être recomptés. Le résultat du vote était très serré. 363 voix d'écart seulement séparaient le contre-projet des garagistes et le projet du Parlement. Le tribunal administratif a donc accepté le recours des Jeunes Verts contre le résultat du 13 février dernier. Le Forum du bilinguisme à Bienne coédite le premier livre pour enfants bilingues. Il s'agit d'un ouvrage qui sera utilisé dans tous les jardins d'enfants de Bienne dès la rentrée. Ce livre s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Jusqu'ici, les puéricultrices devaient créer elles-mêmes leur support. Un manuel va donc maintenant les aider. En direct de Bienne, Virginie Borel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du Forum du bilinguisme. Virginie Borel, parler plusieurs langues, on le sait aujourd'hui, c'est un avantage indéniable. Avec ce projet, est-ce que vous avez voulu renforcer encore davantage le bilinguisme chez les plus petits ?
Oui, et commencer le plus tôt possible, surtout parce que ce qui manquait cruellement, c'était effectivement un support qui puisse être utilisé par les plus jeunes. Donc là, cet imagier plurilingue, en fait, il n'est pas seulement bilingue, puisque le projet est né en Alsace, permet d'entrer dans ces questions linguistiques avec les plus jeunes dès 4 ans. Surtout qu'à Bienne, on a ouvert à l'été 2010 les premières classes d'école enfantine bilingue.
Vous l'avez dit, plurilingue, justement, il y a des dessins dans ce fascicule qui représentent des animaux de la ferme. Les légendes sont en allemand, en français et aussi en alsacien. Donc pourquoi en alsacien ?
Alors en alsacien parce que ce projet est en fait né dans une ville d'Alsace qui s'appelle Guebwiller, qui a depuis plusieurs années un festival sur les bilinguismes, parce que l'Alsace, vous n'êtes pas sans le savoir, cherche aussi à défendre ses dialectes et travaille beaucoup là-dessus. Donc en fait cette année, ce qui était nouveau, c'est qu'on nous a proposé de participer et on a proposé d'amener le dialecte bernois, puisque c'est la région dans laquelle nous nous trouvons. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que dans les différents mots, eh bien la langue, la famille de langues est la même, à la différence près que le français sonne tout à fait différemment, à l'exemple de la basse-cour, qui se prononce plus ou moins toujours Hühnerhof ou Hinerhoft ou Hühnerhof, selon les différentes régions. Mais déjà là, on voit les familles de langues, et c'est ce qui est particulièrement intéressant, pour que les enfants s'approprient les différentes langues et puissent y amener leurs propres compétences, notamment avec les familles migrantes, les familles pluriculturelles qui peuplent aujourd'hui largement notre pays.
Donc ils ne vont pas retenir forcément, j'ai envie de dire entre guillemets, un bon allemand. On va essayer de les sensibiliser à plusieurs choses, si je vous comprends bien.
Alors absolument, parce que français et allemand, évidemment, sont la base. Là-dessus, on a rajouté le dialecte alsacien et le dialecte bernois, puisque vous le savez, les dialectes sont oralement la langue vraiment utilisée par les citoyens alémaniques de ce pays. Donc c'est vrai qu'on voulait voir le fait qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'effectivement il y a des liens entre ces différentes langues et il faut essayer de se lancer dans la prononciation de ces mots. Et en cela, c'est accompagné par un CD audio qui permet d'entendre ces mots. Toutefois, ces mots sont prononcés par des enfants qui ont entre 4 et 5 ans. Donc évidemment, pour une prononciation rigoureuse et scientifique, je pense qu'il faudra, il faut plutôt le voir comme un jeu et comme une introduction au plurilinguisme.
C'est plutôt ludique, en effet. Je vous remercie, Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. Vous étiez invitée par Maurice Doucas. Vous êtes donc venue nous présenter ce manuel et également le CD qui l'accompagne pour les petits biennois. Bonne journée à vous.
Merci.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Une start-up de l'EPFL va bientôt pouvoir diffuser sa technologie de pointe grâce à Microsoft. Le groupe informatique américain a ouvert la boîte de Pandore qui renferme les codes d'accès de la Kinect, une petite caméra permettant de jouer à des jeux vidéo sans manette. À l'EPFL, le fonctionnement de la Kinect a déjà été décortiqué depuis plusieurs mois à des fins de recherche. Un piratage, en quelque sorte, qui va trouver un débouché commercial. Et pas des moindres, la Kinect, c'est 10 millions d'utilisateurs. Reportage dans les couloirs de l'EPFL de Raphaël Grand.
Il y a une caméra en face de nous qui nous filme et nous, on joue en regardant cette image-là. Donc on se voit de face et sur l'image, on va rajouter les objets 3D sur l'image comme s'ils étaient réellement dans la pièce.
Et la Kinect, elle met le joueur dans le jeu.
Exactement, la Kinect, elle est là pour rendre tout ça possible. On est nous-mêmes Pac-Man. Michael Bollet, je suis étudiant en master à l'EPFL, section électricité. Et je m'intéresse surtout à tout ce qui est traitement de l'image et de la vidéo. Et là, il y a les fantômes qui arrivent. Donc il y en a un qui me fonce. Celui-là, il y en a un qui va un peu aléatoire, il va n'importe où. Puis il y en a un qui me fonce dessus. Donc celui-là, il faut l'éviter, mais c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc voilà, tout en chopant les objets, qui n'est, c'est pas tout à fait évident.
Mais... Donc là, là, on est dans le hall de l'EPFL en train de jouer à Pac-Man.
Tout à fait, tout à fait. Dans un, il suffit juste d'un simple projecteur, d'un ordinateur, d'une Kinect, et puis d'un espace relativement grand, quoi. Puis c'est tout.
La Kinect, ce n'est pas seulement un gadget ludique. Alexandre Alaï, docteur à l'EPFL, a développé un système de vidéosurveillance basé sur la caméra intelligente de Microsoft, un système qui pourra bientôt être commercialisé.
On est en train de lancer cette start-up VisioSafe qui veut proposer pour tous les gens qui ont déjà une Kinect et Xbox chez eux de le transformer en outil de sécurité. Donc quand ils partent en vacances, ils peuvent se connecter à distance sur leur Kinect et vérifier qu'il n'y a pas eu de vol. Dans leur salon, où dès qu'il y a une intrusion dans leur salon, ils reçoivent une alerte automatiquement afin de vérifier si justement quelle est cette intrusion en fait dans leur salon.
Microsoft, en publiant son code, vous ouvre un marché volumineux, 10 millions d'utilisateurs.
Tout à fait, oui. Tout ce que nous on a à faire, c'est leur distribuer notre application à travers leur store, comme l'Apple Store. Et donc, on peut proposer notre solution de sécurité innovante à ces 10 millions d'utilisateurs à travers leur chaîne de distribution. Alors voilà, il y a tout type de projections, mais effectivement, le potentiel est assez grand.
Reportage à l'EPFL de Raphaël Grand. En football, la Suisse des moins de 21 ans a rendez-vous ce soir avec l'histoire. Les Helvètes vont non seulement jouer à 21h face à la République tchèque pour une qualification pour la finale de l'Euro 2011, mais également pour un billet pour les Jeux Olympiques de Londres. Au Danemark, l'équipe nationale s'est découvert un gardien de grande classe. Alain Thévaux.
Yann Sommer multiplie les parades depuis le match d'ouverture de 7 euros avec Serdan Shaqiri. Il est l'un des joueurs d'exception de la sélection des M21. Il sera désormais le gardien titulaire du FC Bâle et devra faire oublier Costanzo dont le contrat n'a pas été renouvelé. Ancien portier de l'équipe nationale, 36 fois international, Martin Brunner ne tarit pas d'éloges sur Yann Sommer, un futur candidat pour l'équipe de Suisse A.
Yann, il a une super technique de base, il a des pieds exceptionnel et a une mentalité, une tête très très bien pour jouer au foot. C'est la mentalité et des entraînements. La performance dans les entraînements, il fait toujours super. Et ça, c'est quoi la clé pour jouer après bien. Et après, il a toujours montré dans l'année maintenant, il était toujours prêt. Au moment interne, il était toujours prêt. Il a sauvé contre les Suédois à la maison. Moi, j'ai jamais eu peur avec lui.
Avant de défier ce soir la République tchèque, la Suisse est la seule nation à n'avoir encaissé aucun but. La charnière centrale de la défense, composée de Rossini et Klose, est également irréprochable.
Et une demi-finale des moins de 21 ans à suivre dès 21h sur la première et également sur TSR2. Bienvenue à Nomadsland. C'est le thème qui sera abordé ces deux prochains jours du côté de Genève dans le cadre des 4e rendez-vous des entrepreneurs romands organisés par Résonance. Avec ce constat, 1 milliard de travailleurs dans le monde sont considérés comme nomades. On parle donc de nomadisme. Bonjour Bruno Savoya.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'IBT Suisse et France, cabinet international spécialisé dans l'amélioration de l'efficacité au travail. Vous êtes aussi expert en psychologie et management et vous avez écrit « Les secrets de l'efficacité » ou « Comment faire plus en moins de temps ». Bref, « Les secrets de la rentabilité au travail ». Vous allez participer donc à ces rendez-vous des entrepreneurs romands avec ce thème pour vous. « Nomadisme, notre identité et nos repères en péril, ou est-ce une nouvelle chance ?» Vous allez aborder ça donc dès demain. Quelle est votre définition du nomadisme, si l'on peut définir ce nomadisme professionnel?
Effectivement, c'est un peu difficile à définir, à mon avis. On peut considérer comme travailleurs nomades tous ceux qui travaillent depuis l'extérieur de l'entreprise avec les outils technologiques qu'on appelle nomades, qui permettent de se déplacer. Alors, il y a bien sûr des nomades qui sont de proximité, qui ne bougent pas beaucoup, qui bougent dans leur ville, et puis il y a les grands nomades qui sont des grands voyageurs.
Donc on considère aussi quelqu'un qui travaille dans sa ville et qui bouge tout le temps, un représentant par exemple en Suisse romande, on le considère aussi comme un travailleur nomade, il entre dans les chiffres, dans les statistiques.
Moi je le considère comme nomade, oui.
Le travail qui rend les professionnels nomades, vous parlerez aussi de la perte des repères, est-ce que c'est important à prendre en considération?
Oui, c'est vraiment important et surtout pour ceux qui ne rentrent pas à leur base le soir, dans la mesure où il y a une espèce de désidentification qui se passe parce que les gens sont mélangés à de nouvelles cultures, parlent de nouvelles langues, rencontrent de nouvelles personnes, sont dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. et se retrouvent souvent tout seuls, par exemple le soir. Donc c'est important de pouvoir, pour chacun, de retrouver son identité personnelle et pas l'identité qu'on appelle l'identité des appartenances. Quand on dit ma ville, mon métier, etc. Donc tout ça, ça éclate, ça s'amollit. Et il faut que les gens retrouvent leur identité profonde pour se laisser mélanger à d'autres rencontres, à d'autres lieux. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de flexibilité et c'est délicat de manager ces gens-là.
Ouverture d'esprit, donc il faut être bien dans sa situation professionnelle, bien dans sa vie privée pour être vraiment ouvert à ce type de nomadisme.
Et vous avez tout à fait raison.
Le nomadisme professionnel, est-ce que c'est un nouvel état d'esprit aujourd'hui à prendre en considération par les grandes entreprises ou même les plus petites entreprises, les PME ?
Oui, c'est quelque chose qui est vraiment important de prendre en considération. Et bien souvent, je me rends compte que les entreprises petites ou grandes ne sont pas suffisamment attentives aux conséquences du nomadisme.
Pourquoi ?
Parce que, par exemple, on va donner des outils nomades aux gens, un téléphone mobile, ils ont une messagerie, ils ont des tas de possibilités. Et ça devient de plus en plus léger en termes de technologie. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus atteignables. Et un défaut particulier, c'est les gens vont se considérer ou être considérés comme atteignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc plus de week-end, plus de vacances. Et pourtant, ils ne sont pas considérés comme étant de piquet. Donc il faut du côté managérial comme du côté de l'employé avoir une bonne considération des limites et savoir dans quel cas on va contacter, dans quel cas on ne va pas contacter. Il faut savoir aussi utiliser des outils qu'on appelle coopératifs ou collaboratifs de telle manière qu'on évite de se déranger constamment.
Évidemment, le travailleur n'est pas non plus sur appel 24 heures sur 24, mais il y a tendance, comme vous le dites, avec les nouvelles technologies, à être atteignable en tout temps. Ça, c'est aussi pour les risques du nomadisme. Quels avantages, finalement ? C'est le réseautage international, c'est ça le plus important ?
Oui, ça c'est important, ça donne de la flexibilité, ça permet aussi paradoxalement une proximité avec des gens avec lesquels on a collaboré, comme des clients, des fournisseurs, des partenaires. Et ça c'est vraiment important, ces temps de rencontre.
Vous avez parlé tout à l'heure du fait que le travailleur nomade doit être bien dans sa tête, bien dans sa situation professionnelle pour pouvoir pratiquer donc ce qu'on appelle le nomadisme professionnel. Mais il y a certaines entreprises qui sont très attachées à la région, à l'ancrage du territoire. On parle souvent de délocalisation. Cette notion-là, on doit aussi la prendre en considération.
Oui, c'est un petit peu tout mélangé en fait, parce que le nomade bien pensé peut permettre effectivement de garder des postes aussi sur place et d'éviter des délocalisations, dans la mesure où on peut en quelque sorte exporter sa proximité grâce au nomade. Ça, c'est un élément important.
Est-ce que le nomadisme, vous diriez que c'est un marché ou une tendance ?
Non, je dirais que c'est une tendance.
Pourquoi ?
Ça fait très longtemps effectivement qu'il y a des gens qui sont nomades. Simplement, on en parle plus maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des outils qui leur permettent, qui facilitent les choses. Avant, le nomade, il partait puis on le revoyait une éternité après. C'est comme les anciens marins qui partaient pour leur saison de pêche. Maintenant, il y a le contact quasi permanent avec le nomade, même s'il est loin de sa base.
Mais donc, s'il fait des contacts de façon plus permanente, il est plus productif aussi, donc il rapporte certainement plus d'argent à son entreprise. Donc,
oui,
c'est aussi un marché.
C'est aussi un marché en ce sens-là, oui.
Juste un mot aussi sur la Suisse. En Suisse, 450 000 personnes pourraient potentiellement travailler chez elles. Et on parle du nomadisme, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaiteraient travailler effectivement à domicile. Et on assiste à deux tendances. On veut rester totalement chez soi ou partir complètement à l'autre bout du monde.
C'est vrai, il y a les deux tendances. En fait, les gens ont envie de se faciliter les choses. Et c'est vrai que quand certains collaborateurs doivent perdre beaucoup de temps dans les transports tous les jours, c'est un petit peu ridicule parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent une heure ou deux heures parfois en trajet pour appuyer sur un bouton. Et tout ça, ils peuvent le faire à la maison pour déclencher leur ordinateur. Les outils technologiques le permettent maintenant. Donc ça, il faut, je pense, donner de la souplesse à ces niveaux-là, tout en permettant aussi de garder les liens qui sont nécessaires parce que tout le monde n'est pas capable de travailler à la maison, comme tout le monde n'est pas capable d'être nomade. L'environnement familial est aussi un élément qui est important et qui va faire que ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre.
Je vous remercie Bruno Savoya, directeur d'IBT Suisse et France. Vous avez écrit « Les secrets de l'efficacité » ou « Comment en faire plus en moins de temps ». Vous participerez donc au 4e rendez-vous des entrepreneurs romands à Genève organisé par Résonance. Bonne journée à vous.
Merci.
Et la météo d'Éric Fauchère.
Une perturbation traverse notre pays d'ouest en est et amène de la nébulosité et des précipitations. Des nuages plus minces survolent en ce moment nos régions, provoquant quelques éclaircies. Météo Suisse a émis un avis d'orage pour la Suisse romande cet après-midi, après quoi le ciel restera nuageux et les averses continueront de manière fréquente et régulière. Les températures avoisineront les 23 à 25 degrés. Le vent du sud-ouest soufflera de manière soutenue, tant en plaine qu'en montagne. Demain, la journée commencera avec quelques éclaircies en plaine. Le temps sera plus nuageux avec encore quelques quelques ondées sur les reliefs. L'après-midi, les éclaircies se confirmeront en plaine avec un risque plus faible d'averses en montagne. Il fera 14 degrés au lever du jour et les maxima seront plus frais qu'aujourd'hui, touchant les 19 à 23 degrés. Le vent sera encore bien présent en montagne. Vendredi s'annonce changeant avec quelques averses résiduelles en montagne et sur les préalpes. En pleine, le temps s'annonce généralement sec avec des éclaircies. Le week-end retrouvera des couleurs de plus en plus estivales.
La météo vous est offerte par l'école Lemania. Pour en savoir plus, lemania.ch. Infotrafic RSR.
Suite à des travaux sur l'autoroute Yverdon-Lausanne, on signale de forts ralentissements dans les deux sens entre Cossonay et Villars-Sainte-Croix. Demain, dans ce journal de 12h30, Carole Bouquet, la comédienne française, sera notre invitée. Excellent après-midi sur la première, il est 13h.